Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Séverine fait partie de celles et ceux qui veulent remettre plus de sens et de cohérence dans leur vie. Bonne élève, elle a fini son parcours universitaire. Elle enchaîne les boulots avant de rencontrer le chamanisme. Dans cette émission Regarde ailleurs, je lui donne la parole. Elle nous explique son parcours, ses choix, et nous parle de la van life qu'elle expérimente depuis quelques mois. L'idée, Séverine, ce matin, dans mon camion avec ton café, c'est de prendre le temps de te rencontrer. On est sur un festival qui s'appelle Au cœur du sacré. Donc pendant plusieurs jours, se sont côtoyés intervenants, exposants et festivaliers. Et là, ce matin, j'avais envie de te donner la parole dans cette émission qui s'appelle Regarde ailleurs. Donc Regarde ailleurs, c'est mettre en avant des parcours de vie. Des parcours de vie de français, de francophones, de réalisateurs, de voyageurs, d'écrivains, d'artistes et d'artisans. Et toi, bah là, autour de cette discussion en off ce matin autour du café, je me rends compte que tu as une vie assez intéressante dans le sens que tu fais partie de ceux qui ont toujours été dans cette quête de sens et de cohérence. Séverine, bonjour.
Bonjour Alexandre.
Alors parle-nous un petit peu de peut-être de ton cheminement. Je te rencontre aujourd'hui céramiste, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et j'aimerais bien savoir comment tu t'es comment tu as grandi, comment tu t'es construit et comment est-ce que tu as fait pour mettre du sens dans tout ça, dans le monde qui nous entoure, parce que je crois que tu fais partie de ceux qui sont en recherche de ce sens et de cette cohérence.
Alors moi, ce qui me vient là, c'est un événement que j'ai vécu quand j'étais enfant. Je devais avoir 8 ans et je me souviens que dans mon école, en fait, on a signé une charte du développement durable. Et ça, ça a marqué ma vie parce que après, tout le long de mon parcours, je retrouve ce lien avec la nature. Le premier métier que j'ai voulu faire, c'était naturopathe. Et à l'époque, c'était pas du tout connu en fait en France, quoi. C'était encore un peu en off. Je savais pas du tout quelles études il fallait faire. Je me souviens, j'avais par réseau réussi à contacter un Heil Practiker français, mais en Allemagne, et qui m'avait expliqué un peu le cheminement. Et puis, en fait, moi, ma vie, elle a été aussi pas mal influencée par les peurs, qui fait qu'à chaque fois, en fait, j'ai un peu évité les évidences qui se présentaient à moi, parce que, par exemple, naturopathe, il fallait déjà beaucoup d'argent pour se payer la formation. Après, il fallait se créer sa clientèle, j'avais aucune idée de comment faire. Et je t'ai dit que j'avais fait un master en communication. Mais en fait, avant ça, j'avais fait médecine dans l'objectif d'être kiné pour avoir une clientèle, être dans le soin et après pouvoir me payer la formation naturopathe, etc. Enfin, j'avais des plans. Et en fait, quand j'ai commencé à vivre ma vie indépendante, j'ai préféré être dans la joie et j'ai fait la fête à fond. Du coup, j'ai pas eu mon concours pour kiné et j'ai embrayé sur des sciences économiques. Donc là, en fait, j'ai été parachutée dans un univers qui n'était pas du tout le mien, mais étant très adaptable et très curieuse, j'ai rebondi, je me suis intéressée à la voie plutôt RSE, c'est responsabilité sociale des entreprises, développement durable. Et puis, les rencontres faisant, je me suis dirigée vers la communication et le marketing, toujours avec la branche développement durable, en y croyant.
Je veux bien que tu me redéfinisses le développement durable, parce que j'ai l'impression que c'est un concept dont on parlait beaucoup dans les années 2000, mais est-ce qu'on en parle encore aujourd'hui? Je crois pas. Aujourd'hui, on parle d'autre chose. Hein. C'est articulé autour de trois piliers, le pilier économique, le pilier social et le pilier, je sais plus, environnemental. C'était ça, non?
Ouais, c'est ça. En fait, pour moi aussi, maintenant, c'est un petit peu nébuleux à définir. Je me souviens que j'essayais de créer des concepts qui pouvaient inclure en fait notre société, notre moyen de vivre aujourd'hui, d'être plus en respect en fait avec l'environnement. Mais en fait, ça m'a l'air dépassé maintenant.
Et puis peut-être qu'aussi le développement économique n'est pas vraiment possible en préservant l'environnement. Il est forcément impactant sur les écosystèmes.
Et ouais, et c'est marrant parce que du coup, le virage que j'ai pris, c'était de m'intéresser aux peuples autochtones qui, eux, en fait, sont les seuls à réussir en fait, à vivre en cohérence avec la nature sans la détruire. Et en fait, ils n'ont rien, quoi. Ils sont pas du tout dans cette recherche de développement économique. Donc, du coup, maintenant, je sais plus le développement durable, qu'est-ce que c'est aujourd'hui. J'ai complètement lâché l'affaire, quoi. La RSE, complètement lâché l'affaire aussi. Et après, je me suis plutôt engagée, en fait. Enfin, j'avais l'impression de faire ça sur le terrain, d'œuvrer, en fait, avec des associations qui étaient dans l'environnement et la culture, parce que j'adore les arts. Et en fait, j'ai encore trouvé que c'était pas suffisant. Et donc voilà, moi, je pense que ma prochaine étape, c'est d'acter ça. Là, tu vois, sur le festival, j'ai pris contact du Brésilien qui a acheté une forêt de 300 hectares et qui accueille tout le monde qui veut passer une journée ou un an pour les aider à préserver la forêt amazonienne.
C'est vrai que dans ces rencontres des peuples, dans le message des peuples racines, des peuples premiers, il y a ce lien à la terre qui est encore très présent. Donc, tu vois, on parlait de développement durable, c'est vrai qu'on est rentré dans un système, on le sait, hein, économique, capital, et tous ces peuples racines ne sont pas du tout rentrés dans ce système-là, et c'est pour ça qu'ils peuvent encore vivre en phase et vivre connectés, reliés, sans être impactants sur les écosystèmes.
Oui, oui, et j'imagine que il faut les préserver aussi de... Enfin, je pense que le curseur, il est compliqué entre les soutenir tout en les protégeant de notre influence qui est trop forte. Et c'est assez subtil, en fait. Peut-être que déjà, on pourrait y aller étape par étape en se rapprochant des peuples en fait, qui ont les savoirs ancestraux chamaniques. Pour moi, c'est l'approche et peut-être rester un peu de loin par rapport à eux. Je sais pas trop. Là, c'est un sujet. En fait, je m'y intéresse, mais j'ai pas plongé encore dans le cœur du sujet.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Bon, je veux bien qu'on revienne sur ce grand terme, ce grand mot, le chamanisme. Déjà peut-être le définir à ta manière et nous raconter comment est-ce que tu as rencontré le chamanisme et en quoi est-ce que ça répondait à ce moment-là dans ta vie.
Le chamanisme, pour moi, c'est la vie. J'ai encore des difficultés à trouver la bonne formule pour en parler aux gens autour de moi. Donc, je me forme au chamanisme. Mais en fait, cette phrase, pour moi, elle ne résonne pas du tout. Puisque pour moi, maintenant, le chamanisme, il est partout, en fait. C'est les éléments, c'est mettre les pieds dans la terre, les mains dans la terre, les pieds dans l'eau, s'approcher d'un arbre... Voilà, il est partout.
Donc ce serait une sorte de reconnexion au vivant, se reconnecter au système et aux écosystèmes dans lesquels on évolue?
Oui, ça serait l'approche ou la définition que je donnerais à des néophytes, peut-être pour pas trop les effrayer. Et après, il y a toute la partie invisible de messages, de connexion avec des énergies... la médecine des plantes. Moi, c'est pareil, ce terme, je connaissais pas, quoi. Médecine des plantes, qu'est-ce que vous... Des diètes chamaniques Et comment j'ai rencontré le chamanisme en fait, je travaillais à Paris dans une biocoop qui s'appelle Le Retour à la Terre. Et j'avais deux collègues qui se formaient avec un chaman, avec Patrick Daquet. Et quand elle m'en parlait, j'avais des frissons partout. Et elle m'avait invité à une cérémonie qu'il organisait à Paris. Et je me souviens que pendant la cérémonie, j'ai rien ressenti du tout. Je me disais, mais vraiment, c'est n'importe quoi ce truc. On danse, mais on est à peine... on est un peu ridicule. Et dès que la cérémonie s'est terminée, je me suis effondrée en larmes. Et je ne pouvais pas m'arrêter. Ça a duré peut-être 2 heures. Et mon copain, lui, c'était l'inverse. Il était dans une joie, mais immense. Il était vraiment extatique. Et on était tous les deux en train de vivre quelque chose de très fort, sans comprendre ce qui nous arrivait. Et à ce moment-là, je savais en fait que j'allais y retourner. Mais ça avait été trop puissant. Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis 7 années avant de franchir le pas.
Tu peux revenir à cette soirée chamanique ou chamanisme ou dansante dans un appartement parisien, c'est ça?
Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait comme rituel dans un appartement alors qu'on est loin de la forêt, loin, ouais, des éléments?
En fait, on était tous assis en tailleur, en cercle. Patrick avait fait des invocations. Ils étaient venus, donc c'était Patrick et Lynn, nous souffler du tabac, la fumée sur nous. Dans ma tête, en fait, je me rappelle surtout de cet épisode-là. Après, je me rappelle de rien. Et après, il nous a demandé de se lever et de danser pour s'ancrer. Et pour moi, il ne s'était rien passé, en fait. C'était juste... j'étais observatrice.
Alors, qu'est-ce qui a déclenché ce trop-plein émotionnel, cette crise de larmes?
Eh bien, en fait, c'est des années de blocage, blocage émotionnel. J'avais tout fermé, en fait. J'avais fermé parce que, en fait, je sentais déjà que j'allais être décalée par rapport à la plupart des gens. Et je voulais pas. Je voulais être acceptée, en fait. J'avais peur d'être rejetée. Donc j'avais fermé tout ça. Et puis, en fait, la vie m'a quand même mis des claques. Donc j'étais dans cette biocoop, le retour à la Terre. Et en fait, j'arrivais un peu au bout de cette expérience. Et un jour, je tombe sur une vidéo YouTube d'une céramiste. Et ça m'a transportée. En fait, elle racontait toute sa vie, son métier, sa petite boutique. Et je me suis projetée tellement dans ce métier-là. Je suis arrivée au boulot et même mes collègues, ils ne me reconnaissaient pas. Ils me disaient « Ah, mais tu as l'air hyper heureuse aujourd'hui. » Et je fais « Oui, j'ai trouvé ma voie.
» Donc, au début, dans ce parcours de vie personnelle et professionnelle, tu étais en quête d'un salaire. Hein, tu voulais quand même, en fonction de ton domaine de compétences, obtenir un salaire qui soit en phase, en cohérence avec ce que tu avais étudié. Et là, tu fais le choix de faire cette école de poterie en n'ayant aucune sécurité, ni financière, ni matérielle. Donc comment est-ce que tu fais pour switcher, pour aller au-delà de tes peurs? Parce que tu as quand même aussi posé clairement que dans ton parcours, les peurs avaient été un facteur limitant.
Je m'accroche beaucoup à mon copain, en fait. Lui, il est charpentier et c'est aussi un artiste dans l'âme. Et en fait, je m'accroche au projet qu'on crée tous les deux, à savoir d'acheter une grange, de la retaper et après de faire des chambres d'hôtes. Moi, je ferai des pièces céramiques à vendre et lui, il ferait aussi des pièces tournées en bois, voilà. Donc je m'accroche beaucoup à ça, mais en fait on se sépare au cours de cette année. Et j'ai, voilà, c'est la fin de l'année, et du coup je suis seule.
De cette année de transition, quand, ouais, tu quittes Paris pour aller faire ton, ouais, école de poterie.
Ouais, en Bourgogne, à Saint-Amand-en-Puisaye. Et puis là en fait je vais me créer une maladie. Pour m'empêcher, parce que les peurs sont tellement fortes, donc je vais repousser ce projet-là. Et ma maladie, en fait, va m'empêcher de physiquement, en fait, de vivre cette expérience-là.
Je vais me créer une maladie.
Ouais, en fait, je m'en suis rendu compte assez rapidement et je pense que ça m'a aidé aussi à m'en sortir parce qu'en fait, c'est une maladie qu'on a à vie normalement, qui s'appelle la polyarthrite rhumatoïde, où en fait, mon système immunitaire déglinguait toutes mes articulations. Donc c'est beaucoup d'inflammation, des insomnies, de la dépression. Et en fait, c'est des maladies qui marchent par poussée. Donc il y a des moments où on est bien et des moments où on n'est pas bien du tout. Et moi, ça a été vraiment hyper fulgurant. Je me souviens rencontrer mon rhumatologue et lui demander, mais enfin, c'est courant. Il me dit, bah, vous me demandez à ça, moi, oui, j'en vois souvent. Et puis il regarde mes résultats d'analyse sanguine et il me dit... c'était énorme en fait, les prises de sang, c'était vraiment, c'est des facteurs rhumatoïdes qui étaient très très nombreux quoi. Et puis, cette année-là, c'est une première claque, je prends beaucoup de temps pour moi et ça me prend beaucoup d'énergie. Et en fait, quand j'arrive à stabiliser la maladie, j'ai plus l'énergie de retourner à la terre parce que ça me prenait trop. J'étais à fond, je me couchais, j'étais encore en train de noter des idées sur un carnet. Le soir, j'étais jusqu'à 20h dans l'atelier. Et du coup, je retourne au monde classique, salarial. Je trouve même un CDI. Du coup, je me dis, je vais peut-être acheter un appartement, me poser. Je commence à être plus âgée. Voilà, et puis deuxième claque, je fais une dépression. Je fais une dépression et là en fait j'ai une autre chance, c'est finalement la boutique dans laquelle je suis allée bosser va très mal financièrement et ils nous proposent une rupture conventionnelle. Et moi je me dis là je saute sur l'occasion. Donc je saute sur l'occasion, je démissionne. Et en janvier, je remets les mains dans la terre. Donc là, c'était très intense pour moi. Et j'avais très envie aussi d'aller à la montagne. En fait, j'avais vraiment ces deux envies, quoi. C'était la terre et la montagne. Et alors que je suis en train de tourner une théière, on m'appelle pour me proposer un boulot à la montagne. Donc j'y vais. Et sur place, en fait, je me suis reconnectée à cette énergie que j'avais enfant, là. Cette charte du développement durable que j'avais signée, où j'étais vraiment, où je m'étais vraiment sentie là en lien en fait avec la nature. Et après ça s'est enchaîné. J'ai enfin sauté le pas de cette initiation chamanique et. C'était complètement waouh, quoi. C'était complètement waouh. Maintenant, aujourd'hui, je me pose pas la question de qui je veux être, mais juste je fais. Parce que faire, c'est mieux que parfait.
Encore une fois, cette notion de quête, tu parles de toi, ce qui a donné du sens, en tout cas, ça t'a permis de te sentir peut-être plus aligné à cette notion de comment t'appelles ça, le stage chamanique. Donc raconte-nous ce qui s'est passé. Ça peut-être aussi rendre service à certaines personnes qui, elles aussi, sont dans cette envie de franchir un cap, trouver une direction qui leur corresponde plus. Donc toi, ton expérience peut être inspirante pour d'autres.
Alors, pour moi, ce qui a été important dans cette expérience, ça a été la notion de clan. Patrick... nous en a parlé tout de suite, il parlait de l'expérience clanique je voyais pas trop en quoi ça consistait parce que moi j'avais toujours avancé seule et j'avançais vite mais j'allais pas profondément en fait dans les notions. Donc ça c'est très important. On va vivre tout ça ensemble, un groupe et on va se découvrir en fait les uns les autres. On va pouvoir se reposer aussi sur le clan pour baisser les armes un peu. Cette première année, ce premier cycle que j'ai suivi avec Patrick, il est très centré sur nous-mêmes pour dégommer toutes les couches. Sociétal qu'on a intégré depuis notre enfance. Pour moi, ça a été vraiment très puissant parce que moi, je faisais partie de ce genre de personnes qui étaient effrayées à l'idée d'aller voir un psychologue. me mettre à nu, parler vraiment de mes sentiments très profonds, c'était douloureux. Ouais, c'était vraiment ça. Je me souviens, le premier module et le premier cercle de parole à la fin du week-end où j'ai dû dire ce que j'avais ressenti. Pff, tu vois, j'ai encore l'émotion qui me revient. Enfin, c'était... pour moi, c'était là, en fait, le gros travail pour moi. Et en parallèle, petit à petit, je m'ouvrais aussi à l'invisible. Donc ça, c'est des choses... complètement dingue. C'est un peu tout ce qu'on voit dans les films ou qu'on a déjà lu, c'est un peu Harry Potter, et en fait d'un coup ça fait partie de ta vie, quoi. Donc c'est renversant, c'est complètement renversant, et ça demande beaucoup d'ancrage et de pouvoir s'appuyer, voilà, sur le clan, de pas oublier en fait on est sur cette terre pour profiter, vivre et vivre vraiment cette incarnation.
Mais alors tous ces signes, on parle aussi de synchronicité, hein. On dit que le hasard n'existe pas, que les coïncidences sont finalement quelque part beaucoup plus puissantes, profondes que ce qu'on peut s'imaginer. Mais j'ai envie de dire, et je suis le premier à les observer parce que j'aime ça, hein, je suis en quête, mais des fois j'ai aussi l'impression de me faire des farces à moi-même ou de m'auto-suggérer des choses par rapport au fait de chercher. Quand on cherche, on va trouver, tu vois, les heures miroirs, je cherche un signe, tiens, je vois une étoile, tiens, ça me fait pointer. Donc il y a aussi beaucoup, je trouve, dans ce cheminement-là, dans l'observation des signes, de l'auto-suggestion.
Ouais, bah ça, justement, c'est un point de vigilance que j'ai, que j'essaye d'avoir toujours à l'esprit, parce que, voilà, il y a une grosse part d'ombre dans mon enfance dont j'ai pas parlé. C'est qu'en fait, moi, j'ai grandi, j'ai été élevée dans un mouvement sectaire, et ça me faisait très peur, en fait, de retourner à une spiritualité. Quand je suis sortie de ce mouvement, j'ai comme mis en fait une cloche sur tout ça, et j'en parlais pas, j'ai mis une cloche sur mes émotions, j'ai tout fermé. Et en fait, moi j'avais cette croyance que Dieu allait intervenir sur Terre au jour d'Armageddon, et en fait que toutes les personnes qui ne l'honoraient pas seraient détruites. Et en fait, j'ai gardé cette croyance très longtemps, donc je vivais avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'était hyper angoissant, mais je m'en rendais pas compte. Et un jour, en fait, je n'en pouvais plus. C'était insupportable de vivre avec ça. Et j'ai décidé de croire à autre chose. Et à partir du moment où j'ai décidé, où j'ai demandé à croire à autre chose, voilà, des synchronicités... Un ami m'a fait rencontrer une amie à lui qui m'a parlé des vies antérieures. Et au début, j'ai juste décidé de croire à ça parce que ça me faisait du bien. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, je dis parfois, je ne sais pas si ça existe réellement, mais en tout cas, moi, ça me fait tellement de bien d'y croire. En fait, au fond de moi, j'en suis persuadée, mais moi, je n'ai pas du tout la volonté de convaincre les gens. Parce que voilà, dans mon enfance, c'était une de mes missions de devoir convaincre les gens de la vérité, et c'était pénible, quoi. C'était très pénible. Donc
mais j'aime bien cette association de j'ai décidé de croire, parce que des croyances, on en est tous remplis, hein, des fois de manière consciente ou de manière inconsciente et consciente, comme tu le dis. Je trouve que c'est beau de pouvoir décider de croire en quelque chose tout en étant ok avec le fait que peut-être que c'est pas vrai.
Ouais, voilà, en fait, tant que ça te fait du bien, pourquoi pas, en fait, pourquoi on laisserait pas les gens croire à ce qu'ils veulent s'ils se font pas de mal. C'est une belle notion de liberté, en fait. Voilà, moi, je suis très très attachée à cette liberté, et c'est pour ça aussi que j'ai recherché la vie en vanne. Mais voilà, j'ai pris beaucoup de couches sur moi-même, et ça m'a pris beaucoup de temps de libérer ça, parce que voilà, j'avais très peur de perdre l'amour de mes parents. Déjà, en fait, quand j'ai renoncé au mouvement religieux de ma mère, bah en fait pour elle ça signifiait que je choisissais la mort. Donc c'était très dur quoi. Et mon père, bah lui c'est l'aspect financier. C'est lui en fait qui me ramène à la croyance que je dois gagner beaucoup d'argent, mais parce qu'en fait il a très peur que je m'en sorte pas et du coup pour lui c'est l'argent qui assurera ma sécurité. Et donc ouais, on parlait des synchronicités et en effet parfois en fait on peut mal interpréter des signes. Je pense que ça peut tous nous arriver, ou parfois on a aussi juste envie de croire à quelque chose. Ou je parlais avec un ami de la magie qu'on a envie de créer autour de certaines histoires, parce que parfois ça nous permet de nous extraire aussi de difficultés quotidiennes. Et j'essaye de concilier, je pense, ces deux notions, la magie et la réalité. Du chamanisme. Du coup, ça crée mon expérience sans être complètement certaine que tout soit complètement réaliste. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça que je l'aborde aujourd'hui.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc je te rencontre dans un van. Tu as fait le choix de vivre en van depuis plusieurs mois maintenant, dans ton petit Mercedes 8o, je crois, c'est ça?
Oui.
Dans ton petit, dans ton van. Alors que tu aurais pu continuer à chercher la sécurité matérielle à travers un haut salaire, parce que tu as les études et les diplômes qui te le permettent, mais non, tu fais le choix de vivre dans un van.
Oui, alors je fais surtout le choix de la liberté. En fait, via le van, j'ai fait le choix de la liberté et j'ai fait le choix de la libération. Parce que depuis que j'ai acheté le van, j'ai dû faire énormément de concessions et de choix sur ce que j'allais garder ou non. Donc j'ai vraiment vécu comme une étape, un apprentissage. Il y a des moments où ça a été dur, c'est très drôle, mais en gros, au début, je le vivais très bien de vendre mes biens. Et en plus, je me suis mis un objectif très élevé parce que j'ai choisi un petit camion. J'ai hésité longtemps à prendre un plus gros camion qui m'aurait permis d'emmener beaucoup plus de choses. Mais non, j'ai choisi un tout petit camion. Et du coup, je dois réfléchir en fait, vraiment à ce qui est essentiel pour moi. C'est vraiment comme... C'est une nouvelle vie, quoi. C'est un nouveau départ. Une nouvelle vie, un nouveau départ. C'est vrai que ça signifie énormément, énormément de choses pour moi. Là, je pense que j'ai encore trop de choses dans le camion et que petit à petit, je vais en enlever. Je ne sais même pas, en fait, où ça va me mener. Mais en acceptant, en fait, d'acheter ce van et d'en faire ma maison, j'ai déjà commencé à acter que j'allais changer de vie et que je pouvais pas tout contrôler, parce que je suis d'une nature très contrôlante. Et peut-être que dans 6 mois, en fait, je vais le revendre et je serai peut-être en fait en Amérique latine. Et je sais pas du tout. Mais voilà, maintenant j'essaye de me laisser porter, d'avoir confiance en la vie. J'essaye de lâcher ces peurs.
Alors on va terminer avec ça, avec la peur, parce que j'entends beaucoup voyager en van. C'est quelque chose qui est tendance aujourd'hui, notamment depuis le Covid. Hein, le hashtag van life explose, tout le monde veut vivre cette expérience du nomadisme, cette quête de liberté. Les peurs souvent sont aussi des facteurs limitants, et là tu voyages en van seule en tant que femme. Un petit mot peut-être à toutes les femmes qui ont peur de voyager seule.
Parfois j'ai peur aussi, mais je pense que... Je pense que c'est humain. Il y a des précautions à prendre. Garder quand même une certaine vigilance. Mais il faut pas. Enfin, je pense qu'il faut arrêter de s'empêcher de vivre des expériences tellement riches par peur. Parce qu'en fait, la balance est beaucoup plus forte. En fait, ce que la van life va nous apporter va être tellement plus riche que de continuer à vivre dans la peur. En fait, il faut se lancer. Mais il faut faire la méthode des petits pas, en fait. Si on a trop peur, ça sert à rien de se donner un objectif. Bon, allez, demain, je vends mon appartement, j'achète le van, et ça y est. Moi, j'ai commencé par aménager ma voiture, à partir un week-end. Après, je suis partie 4 jours. Après, je suis partie 1 semaine. Après, 2 semaines. Et puis, en fait, voilà, ces expériences m'ont confirmé que... Mais finalement, à chaque fois que je partais, c'était complètement dingue ce que je vivais et que bah, j'étais vraiment heureuse, quoi. J'étais heureuse de me réveiller dans la nature, de rencontrer les gens. De se reconnecter à la bienveillance parce que quand on s'autorise à vivre ça, en fait, c'est comme si les gens ils nous gratifiaient de bonté, d'attention en fait pour être sûr que tout se passe bien, qu'on est en sécurité. Ouais, ça reconnecte à l'humain en fait, à nous et à l'humain et à la nature aussi.
Séverine, merci à toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Vous venez d'écouter l'émission Regarde ailleurs, une émission que j'enregistre lors de mes différents déplacements en tant que photographe, reporter et voyageur. J'aime bien penser qu'une rencontre peut en inspirer beaucoup d'autres et j'aime donner la parole à tous ceux qui ont un parcours de vie en lien avec le voyage, l'interculturalité, le mouvement ou la découverte du monde ou la découverte de soi.